Musicopolis. Fin 17e. Paris, quartier de Bonne Nouvelle. C'est dans son refuge parisien de la maison de la Petite Union chrétienne de Saint-Chaumont que la dame Bembo, noble vénitienne, compile à la fin du XVIIe siècle un volume de Produzioni Armoniche, productions harmoniques, qu'elle dédie au nom immortel de Louis XIV, le grand roi de France et de Navarre. La sixième pièce s'intitule Lamento della Vergine, Lamentation de la Vierge. Le Fils unique du Père Tout-Puissant, crucifié sur le bois dur du calvaire, exsangue, lacéré et proférant le Verbe divin dans un souffle, eut peur de la mort quand il a vu son dernier moment arriver. C'est une narratrice qui raconte, au début de la Lamentation de la Vierge d'Antonia Bembo. La pièce est une longue cantate à l'italienne qui fait alterner des passages de récitatif avec des passages beaucoup plus chantants, en forme d'air, et qui présente tour à tour la parole de la narratrice, celle de Marie et celle du Christ. Mais que fait donc cette dame Bembo, vénitienne, compositrice accomplie, à Paris à la fin du XVIIe siècle ? Sa présence en France n'a été redécouverte que vers le milieu du XXe siècle par une musicologue, Yvonne Roxette. Mais c'est grâce aux recherches beaucoup plus récentes de Claire Fontine, qui a publié en 2006 une biographie très documentée, qu'on a véritablement pu faire connaissance avec cette Italienne à Paris. Et il ne faudrait pas grand-chose pour en faire un roman. Dans la dédicace au roi, au début de son manuscrit « Productions harmoniques », Antonia Bembo dit être venue en France en raison de sa grande admiration pour Louis XIV. « Cette réputation immortelle qui a inscrit le nom glorieux de votre majesté dans mon cœur depuis l'enfance m'a incité à abandonner patrie, parents et amis pour venir m'incliner devant un monarque aussi illustre. » Il faut se rappeler bien sûr qu'on s'adressait alors à un roi de droit divin, avec un respect qui nous paraît aujourd'hui un brin exagéré. La dédicace se poursuit. « Il y a déjà de nombreuses années que je suis arrivée dans cette cour royale où l'on a représenté à votre majesté que j'avais quelques talents pour le chant. Vous avez bien voulu m'entendre. Et comprenant que j'avais été abandonnée par celui qui m'avait amenée depuis Venise, votre majesté a daigné me gratifier d'une pension qui me permet de demeurer dans la communauté de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. » Si l'on en croit Claire Fontine, celui qui a amené Bembo à Paris n'est autre que le guitariste Francesco Corbetta. Thank you. est sans doute le premier virtuose international de la guitare. Il a sillonné l'Europe, se produisant dans les cours d'Espagne, de France, d'Angleterre ou de Hanovre. Dans chacune de ses cours, il a promu son instrument en donnant des leçons aux grandes familles, y compris les familles royales. Mazarin l'a fait venir pour être le professeur de Louis XIV et Corbetta a gardé avec la cour d'excellentes relations, devenant plus tard également le professeur des filles de France. Il a probablement enseigné aussi à Robert de Vizet, qui allait devenir l'un des musiciens de la chambre de Louis XIV, jouant pour lui tous les soirs dans l'intimité. Bien que des liens s'étaient formés entre le guitariste Francesco Corbetta et le roi Louis XIV. Des liens qui, bien sûr, autorisaient le musicien à présenter à la cour une dame vénitienne de ses amis, en la personne d'Antonia Bembo. Il l'a connue à Venise. On le sait par une lettre du père de la jeune fille qui, en 1654, elle est sans doute encore adolescente, envisage de la marier avec Corbetta. Antonia est la fille unique d'un médecin, Giacomo Padoani, et de son épouse. Il soigne l'éducation de sa fille en la confiant pour la musique non moins qu'au maître de chapelle de la basilique San Marco, célèbre pour ses opéras, Francesco Cavalli. C'est bien sûr une référence pour une musicienne que d'être l'élève du grand Cavalli, qui réussit comme compositeur, organiste, chanteur, aussi bien à l'église qu'à l'opéra, où il est en outre impresario et metteur en scène, et dirige un atelier où ses œuvres sont élaborées, copiées et arrangées pour diverses scènes et distributions. Cavalli a d'ailleurs travaillé lui aussi à la cour de France, où Mazarin l'avait fait venir pour agrémenter les réjouissances lors du mariage de Louis XIV avec Marie-Thérèse d'Autriche. Notre compositrice Antonia Bembo n'est pas la première musicienne vénitienne à être l'élève de Cavalli. Une autre grande l'a précédée, Barbara Strozzi, avec qui on pourrait lui trouver quelques points communs. Giacomo Padoani, le père d'Antonia Bembo, a donc envisagé de la marier avec Francesco Corbetta. Était-il amoureux ? On sait seulement que Corbetta avait environ 25 ans de plus que la jeune fille. Et quoi qu'il en soit, c'est un certain Lorenzo Bembo qu'elle a épousé. Antonia était certainement dotée d'un caractère affirmé, puisque lorsqu'elle était encore adolescente, son père a menacé de la déshériter si elle n'était pas plus obéissante. En même temps, on se doute bien qu'elle avait une personnalité bien trempée pour devenir compositrice à une époque comme la sienne. C'est déjà difficile aujourd'hui, mais à cette époque, je vous laisse imaginer. Bref, Antonia a 3 enfants avec Lorenzo lorsque celui-ci part à la guerre, guerre de Candie, et la laisse seule, à peu près sans ressources. Comment Antonia Bembo se débrouille-t-elle seule avec ses enfants pendant que son mari est à la guerre ? Arrive-t-elle à vivre de la musique ? Peut-elle chanter, donner des leçons ? On ne sait pas. En 1669, son mari Lorenzo rentre de la guerre. Et là, rien ne va plus chez les Bembo. Ça, on le sait, parce qu'en 1672, elle le poursuit en justice pour sévices corporels, infidélité, vol et négligence. Di morte, sabato tu. Antonia Bembo n'aura pas droit à la reconnaissance des juges pour ses malheurs conjugaux. Son mari nie toutes les charges et elle perd son procès. Pourtant, il est bien certain, d'après diverses correspondances et actes notariés, que ledit Lorenzo était tout sauf blanc comme neige. De fait, il a passé les 13 dernières années de sa vie en prison. Il semble qu'il ait été un grand charmeur, mais que ses années de guerre l'aient ébranlé au point de lui faire perdre le sens. Au point que son épouse va abandonner la place et fuir jusqu'à Paris. Elle prépare son départ minutieusement, entreposant une partie de ses affaires chez des amis et ses biens les plus précieux hors d'atteinte de Lorenzo dans un couvent, où elle laisse aussi sa fille de 14 ans. Ces deux garçons restent sans doute avec leur père. Pour en arriver à une telle extrémité, il est probable que la situation était intenable. Loin de l'humour qu'elle met dans l'un de ses airs au titre évocateur, mi basta così, j'en ai assez. Antonia Bembo le dit elle-même dans la préface du manuscrit qu'elle offre à Louis XIV. Arrivée à Paris, elle a eu la chance de chanter à la cour et de plaire au roi. Elle mentionne l'abandon de celui avec qui elle est venue en France. Pour sa biographe Claire Fontine, cet abandon serait tout simplement la mort de Francesco Corbetta, survenue en 1681. A-t-elle vécu avec lui jusque-là, ou bien chez des amis italiens ? Elle était de toute évidence en lien avec la troupe de la Comédie italienne, notamment avec l'actrice et poétesse Brigida Fedeli, dont elle a mis des textes en musique. Toujours est-il que grâce à la pension octroyée par Louis XIV, elle se retrouve dans une maison tenue par des religieuses dans le quartier de Bonne Nouvelle, la petite union chrétienne des Dames de Saint-Chaumont.
Yeah.
À partir de 1682, Antonia Bembo vit dans la communauté de la Petite Union chrétienne. D'après les textes de l'époque, on sait que la chapelle est très petite et dédiée à Sainte-Anne. La maison, serrée entre trois rues et les remparts, ce qui est aujourd'hui les grands boulevards, n'a point de jardin. La principale entrée est dans la rue de la Lune. La maison appartient à la paroisse de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Voici donc notre compositrice soumise à la règle assez stricte de la communauté. Pourtant, pour pouvoir composer toutes ces pièces, on a aujourd'hui 7 volumes complets de plusieurs centaines de pages, dont un opéra, des recueils de motets et des psaumes en français. Antonia a vraisemblablement joui d'une certaine liberté, mais on n'en sait pas plus. Tout ce que nous pouvons faire est d'écouter ces quelques œuvres enregistrées et d'entendre sa voix sensible traduire en notes ses émotions lorsqu'elle met en musique la détresse d'une autre femme, la Vierge, au pied de la croix. Lamento della Vergine d'Antonia Bembo avec Roberta Invernizzi soprano et l'ensemble Bizarrie Armonique. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Claire Lagarde pour la réalisation, Claude Niort pour le mixage et Françoise Monteil pour toute la préparation.